Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Steve Rivière. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Ce soir, j'aimerais vous partager un message court, je l'espère, mais en tout cas, je prie pour qu'il nous conduise de plus en plus, chacun d'entre nous, dans les bras de Jésus. En tout cas, nous rendre plus intimes avec lui, que ce message nous rende réellement plus intimes avec lui. Et donc, ça va être tout simplement la suite de quelques messages qu'on a vus il y a quelques semaines de ça, qui s'intitulent « Les porteurs de sa présence ». Vous vous souvenez de ces messages-là ? Si vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas grave, je vous pardonne. Mais je vais faire un rappel quand même. Vous pouvez avoir les messages sur le site internet. On a vu les porteurs de sa présence 1, on a vu les porteurs de sa présence numéro 2. J'aimerais ce soir, peut-être pas clôturer, ou peut-être, on verra, parce que j'ai pas mal de choses à dire concernant ce thème sur les porteurs de sa présence. Et on va voir ce soir les porteurs de sa présence numéro 3 et ô combien tu es important. Regarde ton voisin, dis-lui tu et une porte. Vous vous rappelez que dans Genèse 18, la première révélation de l'Église, c'est Jacob qui l'a eue. Jacob fuit son frère Ésaü, et on a vu ça ensemble. À un moment donné, sur la route, il est fatigué, il tombe de sommeil, il prend un rocher comme oreiller, super confortable, et il se met à dormir. Et là, il a un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle monter et descendre du ciel jusqu'à la terre avec des anges qui montent et descendent justement sur cette échelle. Il dit, Genèse 28, versets 16 et 17, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et on voit ici, c'est la première définition de la maison de Dieu. C'est-à-dire un lieu qui communique avec le ciel. Un lieu où les anges montent et descendent. Et il y a une connexion de réalités. La réalité spirituelle et la réalité naturelle. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Et on avait vu ensemble aussi que Jésus reprenait cette image lorsque, dans l'évangile de Jean, il rencontre Nathanaël. Et il dit à Nathanaël était un homme en qui il n'y avait pas de fraude, mais il dit à Nathanaël, il dit parce que Nathanaël lui dit, tu es le Christ, le Messie. Et Jésus lui dit, waouh, pour si peu tu crois, c'est super, mais tu verras beaucoup plus que ça. Et là il prend cette image et il dit, tu verras les anges descendre et monter au-dessus du Fils de l'homme. Et ça, c'est extrêmement puissant. Il reprend cette image parce que Jésus est en train de dire, je suis la porte des cieux. Je suis le temple. Je suis celui qui va connecter la réalité naturelle avec la réalité surnaturelle. Et ensuite, Jésus nous dit que nous sommes le temple dans le Nouveau Testament. Nous sommes ceux et celles qui poursuivent l'œuvre que Jésus a commencé sur terre. Il a dit, allez dans le monde entier, faites des nations des disciples. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel, nous sommes la porte. Et nous sommes donc la porte qui ouvre le ciel aux autres, ou qui ferme. Et Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous allez, si vous pardonnez, les péchés seront pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, les péchés ne seront pas pardonnés. Waouh ! Il est en train de dire à ses disciples, vous êtes la porte. C'est vous qui ouvrez ou fermez. Et il nous envoie, et on a vu que, oui, Christ vit en nous. Et qu'on a cette responsabilité, en même temps cet énorme privilège, d'ouvrir la porte des cieux aux autres ou pas. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. On a vu aujourd'hui qu'on transporte Dieu. Que Dieu est avec nous, il est l'Emmanuel. Et on a vu dans Daniel 11, verset 32, que ceux qui transportent Dieu, sa présence, sont destinés aux exploits. Et ça, c'est bon. Tu ne peux pas transporter Dieu et subir constamment les foudres du diable et avoir une vie médiocre, qui est difficile. Il peut y avoir des saisons où tu n'as pas de chance. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que oh, tu es constamment toute ta vie sous la pression de l'ennemi. Non. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, ceux qui transportent Dieu, ceux qui transportent sa présence feront des exploits. On a vu que Jésus-Christ nous garantit d'une alliance meilleure que celle de Moïse. Il nous garantit la communion, il nous garantit sa présence constamment en nous. Il nous garantit que nous sommes la porte. Il nous garantit qu'il est avec nous. Il nous garantit qu'il vit en nous. Et ça, c'est bon. Il nous garantit qu'il est pour nous. Parce qu'il a offert son sang tellement il nous aime. On a vu que donc on est dans une nouvelle alliance qui parle de communion, qui parle d'intimité. Et on a vu que le fruit de l'intimité, c'est enfanter le surnaturel. Ça, c'est très important. Être intime avec Dieu permet de produire des enfants, le surnaturel. Nous sommes un avec Dieu. Quand Jésus dit, je ne sais pas si on réfléchit juste à ça. Jésus dit, Père, je prie dans Jean 17 pour que tous soient un, comme toi et moi nous soyons un. Mais tu t'imagines être un avec Dieu? Est-ce que Dieu subit les problèmes? Oui ou non? Non! Si tu es un avec Dieu, ça signifie qu'on ne subit pas non plus parce qu'on est un avec Dieu. Et ça, c'est très important. Celui qui connaît Dieu signifie celui qui est un avec lui, celui qui comprend sa nature divine et qui l'expérimente. Le fruit de l'intimité et de la communion, c'est le surnaturel. Et ça, c'est très important. La foi, encore une fois, nous a été donnée, non pas pour qu'on raisonne plus, mais la foi nous a été donnée pour qu'on puisse expérimenter le surnaturel. Car rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible pour celui qui croit. C'est-à-dire que la foi est ce qui nous a été donné pour expérimenter les impossibilités. La foi nous a été donnée pour ce qui est impossible devienne possible. L'intimité avec Dieu, c'est ça. L'intimité avec Dieu nous permet de transformer une impossibilité en possibilité. C'est pour ça que l'intimité, une des conséquences d'être un avec Dieu, une des conséquences de l'intimité, c'est le surnaturel. On avait vu ça ensemble. Et pour ça, on doit apprendre à libérer la présence de Dieu. Pour ça, on a vu qu'il nous faut chérir sa présence. On a vu qu'on pouvait libérer sa présence par la prière. On a vu qu'on pouvait libérer sa présence par la foi. Et j'aimerais poursuivre ce soir là-dessus, parce que je n'ai pas pu, ou je n'ai pas voulu, pour ne pas être très long la dernière fois, poursuivre. Mais j'aimerais poursuivre sur le fait qu'on libère la présence de Dieu par la foi. Ça, c'est très, très important. Encore une fois, la foi ne se ressent pas. La foi, c'est être conscient que Dieu est avec toi, même quand tu te sens en prison. Même quand il te semble que tu n'as pas de chance. Je disais à des frères dans la semaine, vous pouvez lire chez vous, lorsque dans Genèse 39, Joseph, la Bible dit que ses frères l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Et la Bible dit que Dieu fut avec lui. Je dis, ben Calinette, Dieu avec toi, une fois que tu es vendu, trahi, fait passer pour mort, loin de ta famille, et la Bible dit Dieu était avec lui. Ça, c'est pas de chance non plus. Hein, de perdre ses frères qui le trahissent, qui le mettent dans une citerne. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Et Dieu le fait prospérer chez Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe? Il est fidèle. Il rend son maître riche. La femme de son maître le convoite. Il est intègre. Mais elle veut coucher avec lui. Et tous les jours, elle lui fait des avances. Et tous les jours, Joseph refuse. Donc elle ment. Elle fait croire à son mari que Joseph voulait donc la violer. Et c'était faux. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait 2 ans de prison pour ça. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Quand il est trahi, lorsqu'on ment, lorsqu'il va en prison, Dieu était avec lui. Même en prison, Dieu était avec lui. Même trahi par ses frères, Dieu était avec lui. C'est pas de chance, ça. Mais Dieu était avec lui. Nous, on pense que lorsque Dieu est avec nous, ben on ne sera pas trahi. On pense que lorsque Dieu est avec nous, on ne fera pas de la prison. Gloire à Dieu. Mais on pense que parce que Dieu est avec nous, il n'y a pas de problème. Erreur. Même dans tes problèmes, il est avec toi. Mais est-ce que tu crois? Ou est-ce que quand les problèmes arrivent, on se dit, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Tu dis que tu es pour moi. Alors pourquoi mes frères me trahissent? Tu dis que tu es avec moi. J'ai été intègre. Alors pourquoi je suis en prison? Parce qu'on a menti à mon sujet. Mais Dieu était avec lui. Alors regarde ton voisin et dis-lui, Dieu est avec toi aussi. Dieu n'est pas avec nous parce que les circonstances sont favorables. Que les circonstances sont favorables ou pas, Dieu est avec nous. Que tu aies des problèmes ou pas, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Que tu as de la chance ou pas, Dieu est avec toi. Ça, c'est important. Sa présence est toujours là et on doit chérir sa présence. On est la porte. L'échelle de Dieu monte sur ta tête. Les anges sont envoyés pour te servir. Ils montent et ils descendent. Lorsque tu pries, tu transformes l'atmosphère. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. De ne pas croire parce que les circonstances sont bonnes. Même qu'elles ne sont pas bonnes, crois que Dieu est avec toi. Parce que la présence de Dieu, on l'a vu, est libérée par la prière, c'est sûr, mais aussi par la foi. On a vu ensemble que Jésus disait dans Jean qu'il faisait uniquement ce qu'il voyait son Père faire. Vous vous rappelez de ça? Et on a lu ensemble dans Luc 8 le passage où Jésus marche dans la foule et il est entouré de plein de gens. Et là, il y a une femme qui arrive et qui le touche. Une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Et là, elle est guérie instantanément. Jésus s'arrête et dit, « Mais qui m'a touché ?» Et on a vu ensemble que même si Jésus recevait les directives de son Père parce qu'il avait une vie de prière forte et il savait en général ce qui allait se passer, parfois, dans des situations, il découvrait ce qui se passait. Là, il ne savait pas forcément que cette femme allait le toucher. Il dit, « Qui m'a touché ?» Et Pierre, qui est toujours aussi marrant dans les évangiles, dit, « Seigneur, toute la foule qui est autour de toi, et toi tu demandes qui t'a touché, tu es comique ce moment. » Pierre était marrant, il ne comprenait pas tout. Ce qui nous rassure, en tout cas, moi ça me rassure. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait. Et Jésus lui dit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortir de moi. » Et là, la femme tremble et elle avoue que c'est elle qui a touché Jésus. Et là, à un moment donné, cette femme dit, c'est moi qui t'a touché. Et Jésus ici dit, oh femme, ta foi t'a sauvée. Elle était guérie instantanément. Et je vous disais que Jésus regardait dans la foi qu'il y avait dans les autres pour voir l'œuvre du Père. Parce que son Père est à l'œuvre. Et il ne fait uniquement ce qu'il voit son Père faire. Mais qu'est-ce que le Père fait? Le Père fait quelque chose. Que fait-il? C'est ce que j'aimerais poursuivre avec vous ce soir. Jean 6, verset 28 nous dit ceci. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, le travail du Père, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Souvent, nous, on dit, cette phrase-là aujourd'hui, c'est, quel est le plan de Dieu pour ma vie? Là, c'est ce qu'il demande à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour faire le plan de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et Jésus dit ici, l'œuvre de Dieu est que vous croyez. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, l'œuvre, le travail du Père, c'est de produire la foi en son Fils. Et quand Jésus voyait en quelqu'un la foi en lui, il savait que c'était l'œuvre du Père. Me suivez-vous? Et ça, c'est très important. Je pensais aujourd'hui au don de l'esprit, à la réalité de l'esprit. Et il y a un don, comme parmi tous les autres très importants, c'est le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas le don du discernement des mauvais esprits. C'est que Jésus avait le discernement des esprits et il voyait l'esprit de foi, comme nous dit l'Écriture dans les autres. Parce que le Père est à l'œuvre. Et que fait le Père? Il travaille à produire la foi dans l'homme. Et quand Jésus voit cette foi, il dit, wow, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh, le travail du Père en Pierre a produit en lui la foi. Et Jésus dit, à cause de ça, il a vu que Pierre avait la foi parce que Dieu, le Père, était à l'œuvre. Donc lorsque Jésus dit, mon Père est à l'œuvre, donc moi aussi je travaille. Quelle est l'œuvre du Père? C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et quand Jésus marchait et qu'il ne savait pas qu'il y avait une femme qui allait le toucher, mais qu'une force par la foi que le Père avait travaillé dans cette femme était sortie de lui, alors Jésus s'arrête et lui dit, oh femme, ta foi t'a sauvée. Parce que la foi est le travail de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qui s'efforce à produire en nous. Pourquoi on prêche la parole? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je suis là, si vous puissiez entendre la parole de Dieu, afin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit produisent la foi en vous. Ça, c'est l'œuvre du Père. C'est un peu lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, mais je vais prendre l'exemple de l'apôtre Paul, à un moment donné, il y a un estropié, il voit quelqu'un de malade. Et la Bible dit dans le livre des Actes que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et ça, c'est important. Ce soir, est-ce que tu as la foi pour être sauvé, restauré, guéri de ta situation, de ton problème, de tes difficultés? Est-ce que tu crois en l'œuvre de Dieu? Si tu es venu ce soir, c'est pour que l'œuvre du Père grandisse en toi. Ça, c'est crucial. Ça, c'est important. Si tes relations sont brisées, est-ce que tu as la foi que le Père peut restaurer? Si ta situation dans ton travail est pourrie, est-ce que tu crois? Si tu es jeté en prison comme Joseph, est-ce que tu crois quand même que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois quand même que Dieu t'aime? La foi. Jésus dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le Père est à l'œuvre. Jésus est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est quoi l'œuvre du Père? C'est de produire la foi. Beaucoup cherchent à faire le plan de Dieu, cherchent d'abord à avoir la foi. Pas la foi qui sauve, La foi qui croit que Jésus restaure, délivre. La foi qui croit qu'il t'aime. La foi qui croit que sa faveur est avec toi. La foi qui croit qu'il est l'Emmanuel. La foi qui croit que sa présence est en toi, au milieu de toi. La foi qui te transporte dans une autre dimension. La foi qui rend possible l'impossible. Cette foi-là. Écoutez bien ceci. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Nous ne croyons pas parce que nous comprenons. Nous comprenons parce que nous croyons. C'est différent. Nous ne croyons pas parce que nous comprenons. Nous comprenons parce que nous croyons. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que nous comprenons. Pourquoi ? Parce que notre intelligence, aussi intelligent qu'on soit, est trop petite pour saisir Dieu. C'est par la foi. L'œuvre du Père, c'est de produire la foi dans les cœurs. Alors utilise ta foi pour découvrir que Dieu est avec toi. Est-ce que tu as déjà fait ça? Utilise ta foi pour réaliser que Dieu est avec toi. Utilise ta foi pour savoir que tu es aimé de Dieu. Utilise ta foi pour, même si comme Joseph, tu te sens en prison, même si tu n'as rien fait de mal, alors tu es capable de dire que Dieu est avec toi. Utilise ta foi pour découvrir qu'il est l'Emmanuel. Vous savez, Moïse dans Exode dit à Dieu, tu sais, je peux pas moi affronter Pharaon. Dans Exode 3 verset 11, il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Il dit, attends Seigneur, là tu m'appelles à résoudre un problème majeur. Et Jésus, Dieu lui répond, Christ, Dieu le Père ici, il répond, je serai avec toi. J'aime ce passage parce que Moïse dit, je suis trop petit, je n'y arriverai pas. Et Dieu ne zappe son incapacité. Dieu zappe ton incapacité. Il s'en fiche que tu es capable ou pas. Seigneur, ce problème est trop dur pour moi. Amen. Sa réponse, c'est, je serai avec toi. Seigneur, c'est trop dur pour que ma relation soit restaurée. Sa réponse, c'est, je serai avec toi. C'est pas de savoir si ça va être possible pour toi. Quand Moïse dit, c'est trop dur pour moi, je ne pourrais pas affronter Pharaon, qui suis-je? Dieu ne calcule même pas qui il est. Dieu ne répond pas à sa question. C'est comme si Dieu répond à côté. Il dit, je serai avec toi. En fin de compte, pourquoi tu t'inquiètes d'autre chose? Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire comme travail. Trouve-moi un travail, Seigneur. Je te prie et Dieu te répond, je serai avec toi. Et tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, tu ne sais pas la question que je t'ai posée. On oublie trop que Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on doit réaliser qu'on porte sa présence. Et on doit constamment être conscient qu'on porte sa présence sans laisser les circonstances nous faire croire qu'il ne nous aime pas ou qu'il n'est plus avec nous. Vous savez, je crois réellement que si la présence de Dieu est comme une colombe qui descend sur Jésus, cela signifie que la présence de Dieu est fragile. Dieu est en nous, mais pour qu'il soit constamment là, imagine que tu marches avec une colombe sur ton épaule. Est-ce que tu marcherais comme ça? Est-ce que tu descendrais les escaliers comme ça? Tu ferais comme ça? Jamais. Tu serais constamment conscient qu'il y a une colombe sur ton épaule. Donc tu fais bien attention, tu regardes si elle est là. Ouh là là, attention, les petites ailes commencent à battre un petit peu parce qu'elle va se voler. Tu caresses un petit peu, tu es prudent, tu fais gaffe. Parce que tu restes constamment conscient que la présence est là. Mais nous laissons les circonstances si facilement nous enlever cette vérité que nous portons sa présence. Et comme Moïse, on se dit, Seigneur, qui suis-je? Et Dieu nous répond, je suis l'Emmanuel, je suis avec toi. Et nous, on oublie, on laisse la colombe s'envoler. C'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Il veut qu'on chérisse sa présence. Et ça, c'est crucial. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es une porte. Regarde-lui encore, dis-lui, tu transportes sa présence. On a vu que Moïse, il est dans l'ancienne alliance. Il n'a pas le sang de l'agneau. Il n'a pas la croix. Il n'a pas la résurrection. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui, comme nous. La Bible dit que la gloire de Moïse était passagère et que nous, la gloire qu'on a dans l'alliance qu'on a est supérieure en gloire. Et souvent, en priant pour vous, mon cœur est triste, je me dis, Seigneur, pourquoi tant de chrétiens galèrent? Pourquoi tant de frères et sœurs n'arrivent pas à embrasser la vie? Même si parfois les circonstances ne sont pas faciles, c'est parce qu'ils oublient que Dieu est avec eux. Ils n'ont plus la foi. Ils ont la foi pour être sauvés, mais pas la foi pour taper dans le domaine de l'impossible. Pas la foi pour avoir une communion intime qui produit le surnaturel. Pas cette foi qui déplace les montagnes. Et pourtant, c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors je vous encourage à faire plus que jamais auparavant. À tout faire pour être préoccupé par sa présence. Faites de sa présence chaque jour votre première préoccupation. Et j'aimerais pour ça vous reformuler Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » J'aimerais vous reformuler avec des mots peut-être d'aujourd'hui, en vous disant, c'est traduit d'aucune version, c'est reformulé autrement, selon ce que ça représente aussi réellement dans l'esprit. C'est comme si on dirait dans Matthieu 6, 33, « Sois préoccupé à cultiver sa présence, parce que le royaume consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Par le Saint-Esprit. Sois préoccupé à cultiver sa présence et à entendre sa voix, et toutes vos autres préoccupations seront résolues. Sois préoccupé, premièrement, à cultiver sa présence et à entendre sa voix, et toutes tes autres préoccupations seront résolues. Ce que Dieu veut pour nous, parce qu'on transporte sa présence. Amen. Regarde ton voisin encore une fois, dis-lui, tu es un transporteur de sa présence. Un transporteur. C'est pas grave si ça n'existe pas. Ben, ça existe, hein? Émilie me dit oui. Transporteur. Frères et sœurs, le cœur de Dieu nous fait réaliser qu'il est avec nous. Il est avec toi. Même si ton couple bat de l'aile, il est avec toi. Même si tu ne te sens pas capable face aux défis que Dieu met devant toi, il est avec toi. Tu es la porte, les anges montent et descendent. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Père travaille à ce que la foi soit en nous. Et Jésus regarde, il veut réagir à la foi. Et quand il voit la foi en quelqu'un, alors la présence est manifestée et se libère. Et la puissance du royaume de Dieu est libérée. Ce soir, j'aimerais aussi vous dire que lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, seuls les prêtres portent sa présence. Seuls les lévites, les sacrificateurs, à l'époque, portaient sa présence. C'était sacré. Personne d'autre ne pouvait porter la présence. Et ça, c'est crucial. Parce que vous avez une histoire dans 2 Samuel 6, où le roi David, qui aimait la présence de Dieu, veut ramener l'arche en Israël. Vous connaissez ça pour la plupart d'entre vous. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller lire 2 Samuel 6, mais je ne vais pas vraiment être long, donc je vais raconter l'histoire de ce passage. où David a envie de voir la présence de Dieu revenir en Israël. Et là, il y a l'arche qui vient, l'arche de l'Éternel. Et malheureusement, il fait porter l'arche par des soldats avec sur des morceaux de bois, dans sur un chariot avec des bœufs et tout ça. Et Uzza, qui est un des hommes de David, un des guerriers, à un moment donné, l'arche va tomber et Uzza met sa main pour caler la présence de Dieu, puisque l'arche transporte la présence. Et Uzza est foudroyé par Dieu sur le champ. Ça, c'est dur. Hein. Je dirais là, David, vous voyez, oh, lui qui a envie d'emmener la présence de Dieu en Israël, il est surpris. Et là, il apprend une leçon dure à ses dépens. Il avait fait comme une bonne idée, moi je pense qu'il faut faire comme ça. Il n'avait pas fait selon les directives de Dieu. C'était que les Lévites qui devaient porter la présence de Dieu. Ils devaient comprendre que seuls les prêtres portent la présence de Dieu. Et David ne savait pas. Et il est parti étudier dans les Écritures à l'époque de Moïse. Et là, il a retrouvé que c'était que les sacrificateurs, les prêtres, qui portait la présence de Dieu. Et dans 1 Chronique 15, on voit bien cela. 1 Chronique 15, verset 1, nous dit « David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites, Uriel, Azadja, Joël, Shemaedja, Eliel et Aminadab, Nadab. Il leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que j'ai préparée l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. C'est parce que vous n'étiez pas avec nous. Alors là, David apprend une leçon dure. Il entend dire aux Lévites, j'aime Dieu, je voulais le plaire, mais je ne savais pas comment il fallait le plaire. Je voulais que sa présence vienne. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas n'importe qui. Qui porte sa présence. C'est les prêtres. Et il dit à ses sacrificateurs, parce que vous n'étiez pas là, l'Éternel nous a frappés. Mais j'ai vu dans les Écritures que c'est les prêtres qui portent sa présence. Donc sanctifiez-vous et venez. Mais vous savez, dans le Nouveau Testament, qui sont les prêtres ? 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 La Bible dit dans 1 Pierre 2,9, nous, le peuple de Dieu, nous sommes un peuple de prêtres rois. Un peuple de prêtres rois. Nous sommes ceux qui sont qualifiés pour porter sa présence. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas porter sa présence, même si le Père œuvre à travailler la foi en lui. Et il faut considérer ça à sa juste valeur. C'est pas n'importe qui porte sa présence. C'est toi et moi. La dernière fois, j'ai eu une réunion avec l'équipe potentielle et je leur ai expliqué, je disais, les gars, quelle que soit la stratégie que Dieu nous donne, qu'elle soit extrêmement efficace, qu'elle soit sage dans ce que Dieu veut, quelle que soit l'organisation qu'on met en place, ce n'est pas une organisation, une stratégie que Dieu oint, c'est des personnes. C'est des personnes que Dieu oint. Dieu oint des prêtres. Dieu oint son peuple. Dieu donne sa présence à son peuple. Pour que son peuple manifeste sa présence là où il est. C'est le cœur de Dieu. Et David savait que la présence de Dieu était cruciale. Mais toi et moi, on a une meilleure alliance. Est-ce que nous croyons en ce que la parole de Dieu dit à notre sujet? Est-ce que tu crois réellement que tu es une porte quand la tempête fait rage? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est avec toi, même quand la dépression frappe à ta porte? Est-ce que tu crois que tu es un prêtre roi? Et que tu es qualifié pour transporter sa présence afin de manifester sa puissance, afin d'être en communion avec lui et de marcher dans le surnaturel de Dieu. David, lui, le croyait. David était un roi atypique, un roi original, si tu préfères. C'est pour ça que Jésus est appelé le fils de David. Jésus n'est pas appelé nulle part dans la parole de Dieu le fils de Moïse. Et pourtant Moïse est un homme de Dieu extraordinaire. Jésus est appelé le fils de David. Parce que David était un roi qui était sous la loi. Mais pour moi, c'est l'homme de Dieu sous la loi qui a vécu le plus sous la grâce. Il savait qu'il était bon d'être pardonné de ses péchés. Il a écrit les psaumes. Il a fait des choses extraordinaires. Il chérissait la présence de Dieu comme aucun autre le faisait. Même pas Moïse. Il avait compris des choses extraordinaires. Même si Moïse se préoccupait de la présence de Dieu, il a dit à l'Éternel, « Je n'irai pas si tu n'es pas avec nous. » Et David, il est parti la chercher. Il a fait une erreur, il s'est repenti. Il a compris que la présence de Dieu, ça a de la valeur énorme. Ce n'est pas comparé à gagner au loto. Sa présence est incomparable. Il avait compris ça, David. Et David a commencé à s'approcher de Dieu d'une façon originale pour l'époque. D'une façon différente. Il explorait par la foi ce que Dieu voulait. Il a compris que c'était les prêtres qui portent sa présence. Il a dit, c'est bon, il faut chérir sa présence. Si Dieu habite au milieu de nous, il faut qu'il reste au milieu de nous. Et donc il a compris, il a prié en disant, une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et il a dit aux prêtres, vous qui êtes les sacrificateurs, vous qui donnez des sacrifices, vous qui tuez des animaux pour l'expiation des péchés, etc. Je vais vous proposer une nouvelle façon de célébrer le roi des rois. Je vais vous proposer une nouvelle façon d'adorer Dieu. Prenez vos instruments. Prenez la lutte. Prenez la harpe. Et louez l'Éternel. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Ça, Dieu aime. David l'avait su. David l'avait compris. David avait su que le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui le louent, était un sacrifice plus agréable à Dieu qu'un taureau égorgé, qu'un agneau tué. Il avait compris que ce que Dieu aimait, c'est lorsque son peuple loue. Et David a fait un tabernacle pour Dieu, connu sur le tabernacle de David. C'était quelque chose de nouveau à l'époque, une louange et une adoration extravagante. Une louange et une adoration extravagante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la présence de Dieu ne se considère pas à la légère. Il avait compris que c'était les prêtres qui devaient la porter. Mais il avait compris que quelque chose de mieux que les animaux égorgés plaisait à Dieu. C'était la louange, c'était la musique. Est-ce que l'instrument est loin? Non, les prêtres sont loin. Ça, c'est important. Est-ce que le piano porte l'onction? Non, les pianistes portent l'onction. C'est les prêtres qui portent l'onction. Un peuple de prêtres rois. Est-ce qu'un tableau porte l'onction si tu peins? Non, c'est toi qui peins qui porte l'onction. Et David avait compris. Et David alors amène une nouvelle façon d'adorer Dieu pour chérir sa présence. Et on le voit dans 1 Chronique 16, au verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères, c'est-à-dire les Lévites, les sacrificateurs, de célébrer les louanges de l'Éternel. Louer l'Éternel et invoquer son nom. Dans ce chapitre-là, on voit que David, Dieu sacrificateur, bon, c'est bon, faites quelques sacrifices si vous voulez, mais surtout, adorez Dieu et louez-le non-stop. Il faut que sa présence demeure. David avait compris que lorsque le roi Saül était tourmenté par un esprit mauvais, que la louange chassait l'ennemi. La louange d'un prêtre roi. David était roi, il n'était pas prêtre. Même s'il a exploré un peu ce domaine, parce que c'était un roi particulier. C'était un roi prophétique, avant-gardiste sur son temps. Il avait compris par la foi des choses qu'aucun autre homme n'avait compris sous la loi. Il commençait déjà à pratiquer des choses que nous, sous la nouvelle alliance, on doit pratiquer. C'est fabuleux. C'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il connaissait les volontés de Dieu. Il connaissait qu'est-ce qui plaisait à Dieu. Bien plus que la loi. La passion pour son nom. L'amour pour son nom. Des lèvres qu'il adore d'un cœur sincère. David avait compris cela. C'est pour ça que Hébreux 13, 15, le Nouveau Testament nous dit, et je vous l'ai lu à l'offrande, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Wow. David avait compris. Et à la fin des temps, dans Amos 9, verset 11, dans les temps que nous sommes, la Bible dit, en ces temps-là, je relèverai le tabernacle de David. La maison ici, c'est le mot tabernacle de David. C'est qui je ? C'est qui je ? C'est Dieu. Dieu dit, je vais relever le tabernacle de David à la fin des temps. Pas le tabernacle de Moïse, pas le temple de Salomon, le tabernacle de David. C'est le cœur de Dieu. Parce que l'œuvre du Père, c'est de produire la foi en nous. Et la foi qui nous fait marcher dans le surnaturel ne peut que faire en sorte qu'on proclame et qu'on déclare notre reconnaissance envers un Dieu si bon. C'est le cœur de Dieu. Pour chacun de ses enfants. Christ est celui qui restaure le tabernacle de David. C'est pour ça que David a chanté « Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. » Pas au milieu des sacrifices de son peuple, au milieu des louanges de son peuple. Et ça, c'est puissant, et ça, c'est profond, et ça, c'est extraordinaire. C'est que la présence de Dieu est cultivée par notre adoration. Tu es un porteur de sa présence. Tu es un porteur de sa présence. Tu es capable de libérer sa présence et son onction. Pour être qualifié pour le faire, il faut être tout simplement en Jésus-Christ. Un peuple de prêtres rois. Sous la nouvelle alliance, Dieu a réuni le prêtre et le roi en un seul sacerdoce. Il ne voulait pas un prêtre ou deux ou trois ou quatre. Il voulait un peuple qui célèbre sa présence. Qui va comprendre qu'il est au milieu d'eux, qui va comprendre qu'il est avec eux, qui va comprendre qu'il vit en eux, qui va comprendre qu'il vit au travers d'eux. Et c'est son cœur. Tu es un porteur de sa présence. Et l'œuvre de Dieu est de produire la foi en nous pour que de nos bouches, on puisse glorifier son nom. Car c'est à lui la louange, l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. C'est le cœur de Dieu.